Chers amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Il faut le reconnaître, nous vivons une époque difficile, une époque compliquée. Nous avons dû faire face au Covid-19. Après cela, nous pensions être sortis d'affaires. Que nenni, l'Ukraine est attaquée. Ces bruits de bottes nous font peur une nouvelle fois. L'Europe doit vivre avec la guerre à ses portes, chose que nous n'osions même pas imaginer il y a quelque temps, que notre bonne vieille Europe, christianisée, développée, intelligente, etc., puisse encore connaître un conflit sur son sol. Et bien entendu, tout cela apporte tout un cortège de difficultés. Tout d'abord, bien sûr, pour le peuple ukrainien qui doit vivre sous les bombes, subir la faim, la soif, quitter son pays pour aller vivre on ne sait où pour certains, d'autres restent dans le pays au péril de leur vie. Quant à nous, eh bien, nous devons faire face à des temps difficiles. Notre pouvoir d'achat diminue, même si régulièrement nous sommes augmentés, que ce soit nos pensions ou notre salaire, ça ne compense pas, bien entendu, cette augmentation des prix. Tout augmente, nous connaissons une pénurie de produits essentiels, ce qui, moi qui travaille dans un garage, nous donne des prises de tête chaque semaine, avec nos chers clients qui ont commandé leur voiture et qu'on leur annonce de mois en mois qu'elles ne seront pas livrées cette année, l'année prochaine, et des voitures qui restent en panne parce que nous n'en arrivons pas à avoir des pièces de rechange. Donc vous voyez tout ce que cela peut engendrer. Et quand nous allons dans les magasins, nous qui sommes le pays de la frite, on n'a pas d'huile pour cuire nos frites, hein? Bon, oui, on en a retrouvé, mais enfin, il y a eu une pénurie, et dans d'autres produits sont en pénurie. Notre avenir est compromis, et nous ne savons pas comment et dans quelles conditions nous allons vivre les prochains mois. On a peur, tout le monde a peur de communiquer le relevé du gaz et d'électricité à sa compagnie, parce qu'on ne sait pas quelles seront les mensualités l'année prochaine. Pourrons-nous nous chauffer raisonnablement? Pourrons-nous nous nourrir sans difficulté? Pourrons-nous nous soigner? Etc., etc. Voilà notre situation actuelle. Certains diront, il faut profiter tant qu'on peut encore le faire. On n'a qu'une seule vie, il faut vivre à fond. Oublions nos problèmes quelques instants. Étourdissons-nous pendant quelques jours. On n'a qu'une vie, on ne vit qu'une fois. Après, on verra. Alors, mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Voilà la triste réalité de notre monde actuellement, face aux difficultés qui sont devant nous. Ne nous tracassons pour rien, advienne que pourra. Telle est vraiment la devise actuelle de notre monde. Et malheureusement, cette mentalité atteint aussi le monde chrétien. Matthieu chapitre 24 nous dit au verset 38, c'est Jésus qui parle. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Je n'ai pas choisi ce verset parce que hier, notre frère Jean-Luc a marié son fils. Hein. C'est vrai qu'on a encore le droit de se marier, mais ça prouve que ce texte prouve que les gens vivaient vraiment dans l'insouciance. Vivaient dans l'insouciance sans se préoccuper de l'avenir. Malgré les avertissements que leur prodiguait Noé, les habitants de ce temps se moquaient de lui et riaient de ses dires. Je suis persuadé que si certains se seraient repentis, qu'ils seraient aussi montés dans l'arche. Dieu est un Dieu bon et compatissant pour celui qui se repent. Et ne sommes-nous pas dans ce même temps que Noé? Le monde se rit. Le monde rit, le monde est insouciant face à la situation mondiale. Rien ne compte plus que faire de l'argent. Car malheureusement, quand les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent. Une classe sociale s'enrichit sur le dos de la classe laborieuse. Ici, je ne fais pas de politique, mais c'est la triste réalité. Il y a des sociétés qui font des bénéfices extraordinaires maintenant, pendant cette période de crise, tandis que d'autres personnes meurent de faim, ont difficile à boucler les fins de mois. C'est la triste réalité de notre société vivant loin de Dieu. On oublie que Dieu est souverain, qu'il dirige chaque chose. Quoi que l'on dise, il tient le monde dans sa main. Ne l'oublions pas. Même si nous, les chrétiens, parfois nous doutons que Dieu tient encore le monde dans sa main. Parfois on se dit, mais que fait Dieu? Que fais-tu, Seigneur? Dors-tu comme certains le pensent? Matthieu chapitre 24, les cinq premiers versets. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Déjà au temps de Jésus, il y avait de l'inquiétude dans le cœur des habitants d'Israël, entre autres dans le cœur des disciples. Les Romains occupaient le territoire d'Israël, le pays était occupé par une armée ennemie, il n'y avait pas de paix. Il subissait cette occupation difficilement. Des opposants s'organisaient contre ses occupants. Et bien sûr, les disciples espéraient le retour glorieux du Messie qui mettrait fin à cela. Mais avant cela, Jésus devait accomplir sa mission, mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. Et cela, ils ne l'avaient pas compris. Et nous sommes un peu comme c'est les disciples de Jésus. Nous voulons savoir. Nous voulons savoir quand le Seigneur reviendra. Nous soupirons après un temps de paix, on en a bien besoin, et un temps de repos, de gloire. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 18, l'apôtre Paul nous dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La nature aussi soupire après un rétablissement de toutes choses. Et c'est vrai, quand nous voyons dans quel état est notre planète. Déjà à l'époque de Paul, la nature souffrait. Qu'aurait-il dit aujourd'hui, après tous les ravages de la pollution? Mais, frères et sœurs, soyons vigilants. Il faut attendre le temps marqué par Dieu pour le rétablissement de toutes choses. Ne nous laissons pas égarer par des fables, par des « on m'a dit que Jésus reviendra quand il se passera ceci, quand il se passera cela, soyons des adultes spirituels ». C'est vrai qu'il y a des signes avant-coureurs. Mais Jésus avertit les disciples, « Faites attention que personne ne vous égare. » Cet avertissement est toujours valable, frères et sœurs, en ce moment, plus que jamais, avec tous les courants religieux qui prolifèrent. Certains ont avancé des dates pour le retour de Jésus. Et ils se sont trompés. Alors certains disent, ben, vous voyez, Jésus ne revient pas. On annonce des dates à plusieurs reprises. Jésus ne revient pas. Et pour nous, chrétiens de longue date, combien de fois nous avons dit, Jésus revient bientôt? Et beaucoup de mes frères et sœurs sont déjà dans la gloire et le Jésus n'est pas encore revenu. Et certains ne croient pas qu'il va revenir. Depuis le temps qu'on l'annonce, cet événement, on ne le voit pas venir. Frères et sœurs, il est grand temps que le peuple de Dieu et son Église se mettent à méditer la parole de Dieu et se mettent sérieusement en prière. Car ces temps troublés sèment le doute et l'inquiétude dans nos cœurs. Et beaucoup de chrétiens sont perplexes et complètement déboussolés, ne sachant pas ce qu'il faut faire. Frères et sœurs, nous ne savons pas le moment que Dieu a choisi pour son retour, pour le retour de son Fils. Mais il y a une chose qui est claire, il reviendra. Le Seigneur reviendra, alors tenons-nous prêts. Ne perdons pas de temps à des futilités. Le peuple de Dieu perd trop de temps à des futilités. Le peuple de Dieu perd beaucoup de temps à autre chose qu'à méditer, qu'à prier la parole. Ne nous laissons pas tromper par des beaux discours. Vérifions d'après la parole de Dieu si tout ce qu'on nous annonce est bien conforme. Soyez vigilants. Soyons des adultes spirituels. Le temps presse. Et écoutez l'avertissement que nous donne l'apôtre Paul et cet appel est encore plus pressant aujourd'hui. Et il est de mon devoir de vous le relayer. Romains chapitre 13, verset 11 nous dit « Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. » Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons correctement. Comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire le désir de l'homme livré à lui-même. Romains 13, pour ceux qui cherchent. Cet appel doit nous faire réfléchir, frères et sœurs, sur notre situation spirituelle en ce jour. L'apôtre Paul dit « Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. » Et nous le voyons se dérouler devant nous, le temps. Nous voyons tous les événements qui se déroulent. « C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. » Beaucoup de chrétiens se sont endormis sur leur laurier, se sont endormis sur leur salut. « Ah, je suis sauvé, que je suis heureux d'avoir rencontré le Seigneur. » Bien sûr, c'est une joie. Mais si le Seigneur nous a sauvés, c'est pour veiller, c'est pour demeurer ferme dans la foi, c'est pour proclamer l'Évangile, pour lancer des alertes, des avertissements. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus avoir de loisirs, cela. Ça ne veut pas dire que nous ne devons plus travailler. Il y a certains qui croyaient que le retour du Seigneur était proche, ils avaient tout vendu. L'apôtre Paul nous en parle et certaines personnes ont cru cela et ont tout vendu. Ils se sont installés ensemble dans grands campements. Non, ce n'est pas ça. Nous devons veiller. Nous devons redoubler de consécration envers notre Dieu. Et l'Église qui est l'épouse bien-aimée de Jésus, elle doit être prête pour son retour. Sortons de notre sommeil spirituel. Nous ne pouvons pas nous endormir sur nos acquis. Nous vivons de temps difficiles où il est nécessaire vraiment pour l'Église d'être vigilante. Revêtons la nature de Christ. Continuons, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, du verset 6 au verset 14. Voilà ce que Jésus continue à dire à ses disciples. Vous entendrez, au verset 6, parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera la persécution, on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et se trahiront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous sommes effrayés pour le moment, il y a juste ce titre, de ce qui se passe à nos portes, c'est-à-dire en Ukraine, cette guerre surprise. Un peu plus loin, vous avez entendu, à Taïwan, il y a aussi des bruits de bottes, la Chine voulant récupérer cette île. Vous entendez encore de nouvelles au Moyen-Orient, encore en Somalie, il y a eu une prise d'otage, enfin, il y a eu encore des problèmes, mais un peu partout dans le monde. Mais l'homme n'a jamais vécu en paix sur cette belle planète bleue, cette merveille de la création. Tout a été mis en œuvre afin que l'homme puisse vivre en paix, en communion avec la nature et avec Dieu, le grand architecte de ce chef-d'œuvre merveilleux. Mais malheureusement, l'homme, dès le début, a préféré écouter la voix du tentateur au lieu d'obéir à son créateur. Malheureusement, ce choix a provoqué une rupture définitive avec Dieu, ce qui a engendré le péché dans le monde. Et qui dit péché, dit conflit. Qui dit péché dit violence, qui dit péché dit guerre. Nous le voyons dès le temps le plus reculé, l'homme n'a pas arrêté de se faire la guerre. Si vous avez lu l'histoire, nous voyons depuis l'Antiquité, depuis que le monde est monde, l'homme se fait la guerre. Et dès le début de l'humanité, un premier crime fut perpétré. Caïn tue son frère Abel. Et malheureusement, ça n'a pas cessé depuis. Il en résulte depuis cela un long cortège de drames, de déportations, de vies brisées, de morts, de blessés, de familles déchirées, divisées, et tout ce qui découle de cette violence, viol, vol, torture, etc. Non, rien de nouveau sous le soleil. Depuis que le monde est monde, depuis que l'homme a rejeté définitivement son Créateur. Et Jésus nous parle. Nous disons, vous entendrez parler de guerre et le bruit de guerre. Jésus connaissait déjà l'évolution de ce monde. Il savait que la technologie viendrait à se développer. Et cette technologie nous permet de connaître en un instant toutes les nouvelles mondiales. Tout ce qui se passe sur cette planète, en un clic, nous pouvons savoir ce qui se passe en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique. Et bien souvent, nous ne savons pas ce qui se passe à côté de chez nous. Des drames se manifestent sans que l'on sache. Enfin, voilà comment est le monde. Malheureusement aussi, cette technologie n'a pas apporté que de bonnes choses. Elle a permis de construire, mais aussi de détruire. De nous détruire à cause des armes redoutables qu'elle a produites. Et de plus en plus meurtrières sont ces armes. Mais c'est vrai qu'il est évident que tout s'accélère à une vitesse terrible. Et cela n'est pas rassurant. Pour avoir une idée de la véracité de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, on en doute, et j'ai trouvé un article que depuis 1945, donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai vu le nombre de conflits qui se sont produits sur cette planète. De 1945 à nos jours, donc ça a été arrêté en 2019, il y a eu, depuis de 1945 à 2019, pas moins de 530 conflits armés sur cette terre. 530 conflits armés jusque 2019, et malheureusement depuis 2019, on en sommes peut-être à 535, 540, et ça va en augmentant. Et que dire aussi de toutes les catastrophes naturelles qui se produisent, tremblements de terre de plus en plus violents, des volcans qui se réveillent après des centaines d'années d'endormissement, des tornades, des cyclones, des inondations. Nous les avons vécues ici en Belgique. Si vous avez entendu les nouvelles en Corse, des violents orages, le vent à plus de 220 km/h et des morts. Dérèglement climatique, gaz à effet de serre et j'en passe. Je suis triste, hein, ce matin. Parlons des famines. Alors qu'il y a abondance de produits alimentaires pour nourrir plusieurs fois plusieurs planètes, mais non, l'homme aime trop le profit au lieu de partager cette nourriture ou de la vendre à bas prix, on la jette. On jette des produits pour ne pas que les gens aient fouillé dans les poubelles, pour que cette nourriture devienne immangeable. Ne parlons pas des épidémies. Je suis dit, ouais, c'est vraiment rassurant ce matin. Des nouveaux virus qui se propagent, on ne sait trop comment, par voie naturelle ou fabriqués par l'homme, par des scientifiques fous qui aiment bien faire des essais. Et Jésus nous met une couche, il nous met un coup au moral. Il dit, tout cela sera le commencement des douleurs. Oh, merci Jésus pour l'encouragement que tu nous donnes ce matin. Mais Jésus ne veut pas nous raconter des histoires, nous mettre de la pommade, nous dire, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, Jésus est cash. Il ne tourne pas autour du pot. Il veut nous mettre face à nos responsabilités. Il veut mettre en garde face aux difficultés qui nous attendent, afin que nous ne soyons pas surpris, frères et sœurs. Et il ne s'arrête pas là. Il avertit l'Église. Elle connaîtra une vague de persécution. Ah, c'est gai d'être enfant de Dieu, hein? Nous l'avons vu dès la naissance de l'Église. Satan s'est acharné contre l'Église. Quand l'Église est née, on a tout de suite persécuter cette Église, elle dérange Satan, l'Église. Satan a déployé toutes ses armes pour anéantir cette Église. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église, le séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Il n'y parvient pas, mais il peut faire fléchir les chrétiens les plus faibles. Et je pense, en cet instant, à tous nos frères et sœurs qui sont persécutés, dans le monde, prions pour eux afin qu'ils tiennent bon. Je me suis déjà dit, si ça nous arrivait ici, comment tiendrions-nous? Nous qui sommes parfois des chrétiens du dimanche, sans aucun jugement, mais c'est vrai, où est notre foi? Quand nous voyons comment ces gens-là tiennent le coup, ils savent qu'ils peuvent perdre leurs enfants, qu'ils peuvent perdre leur travail, qu'ils peuvent perdre leur vie, leur santé, qu'ils sont enfermés pendant des années dans des prisons et ils tiennent bon, au point que même parfois leurs gardiens se convertissent tellement leur foi est grande. Je pense à une anecdote du temps de l'URSS. On avait pris un chrétien et le gardien lui dit « Est-ce que Jésus n'a pas dit que vous boirez des breuvage mortel et que vous ne mourrez pas. » Et il y avait un grand berger allemand, et il y a un verre avec du poison, il le donne au chien, et le chien meurt. Et maintenant, il dit au chrétien, « Maintenant, tu vas le boire. » Et ce chrétien témoigne, il a bu ce verre, et il n'est pas mort. Et le gardien s'est converti de voir que la parole de Dieu est encore vraie. Dieu confond des fois ses opposants. Je ne dis pas que quand vous allez rentrer, vous allez faire l'essai de boire du white spirit. Hein. Je n'ai jamais dit ça, hein, attention. Mais dans des circonstances particulières, Dieu peut agir et transformer le white spirit en eau claire. S'il a transformé de l'eau en vin, il peut aussi le faire. Mais ceci, c'est pour vous dire la puissance de Dieu et que nous voyons que Dieu veut bâtir et confondre les gens et bâtir son Église. Donc pensons à tous ces gens-là. Mais vous allez dire, mais nous sommes en Belgique. Notre liberté de culte est garantie par la Constitution. Nous sommes protégés. Oui, d'accord. Mais essayez de faire un plein air cet après-midi. Place Saint-Lambert, vous allez voir, on l'a fait pendant des années, place de la République française. On l'a fait pendant des années, c'était déjà pas dans les années 70, et on le faisait. C'était déjà pas facile, mais enfin, on arrivait encore à parler sans avoir de l'opposition trop forte. Mais essayez maintenant. Essayez de parler de Jésus, parlez de Jésus à vos collègues, à vos voisins, tout ça, vous allez voir l'opposition que vous avez. C'est sournois, bien entendu, mais il y a une opposition à l'Évangile. Quand on veut manifester nos convictions chrétiennes, ce n'est pas toujours facile, on se moque de chrétiens, on se moque de l'Évangile. Et malheureusement, ceci ne va que s'accentuer. Bien sûr, on se moque de l'Église et il faut reconnaître que dans le passé, l'Église n'a pas toujours été parfaite et elle a commis des exactions qu'on nous reproche aujourd'hui. Alors l'Église doit aussi demander pardon à Dieu et pardon pour ce qu'elle a fait. Et que dire aussi des luttes intestines entre chrétiens, entre confessions, entre dénominations, des chrétiens qui ne se parlent plus parce qu'ils ont une autre vision de la vie chrétienne, parce qu'ils pensent différemment, parce qu'ils ne sont pas de la même dénomination. Et Jésus de nous mettre en garde face à toutes ces sectes qui pullulent dans ce monde et même au sein de nos églises. La saine doctrine n'est plus prêchée. Soyons vigilants à ce que nous écoutons ou regardons. Mais Jésus nous encourage à ne pas baisser les bras. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit-il. Frères et sœurs, courage, ne nous laissons pas abattre face à tout ce qui se passe autour de nous. Jésus nous encourage à persévérer. Prions, méditons la parole de Dieu, nourrissons-nous de bonnes choses afin de tenir bon. Encourageons-nous les uns les autres, soutenons-nous, soutenons les faibles, que l'entraide soit la règle de notre communauté. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle, malgré les obstacles, avance inexorablement pour la gloire de Dieu. Voilà le côté positif de ce message. Restons fermes dans la foi, malgré les circonstances que nous traversons. Luc chapitre 21, verset 28. Nous dit quelque chose d'encourageant, frères et sœurs. Quand ces événements commenceront à se produire, baissez la tête. Non. Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. C'est quand même encourageant de dire que le Seigneur revient bientôt et nous le voyons. Jésus ne veut pas que ces événements nous affectent en tant qu'enfants de Dieu, mais il veut nous encourager. Il ne veut pas que nous vivions dans la peur, dans l'effroi. Ne courbons pas les chines sous le poids de la difficulté, frères et sœurs. Il veut que nous redressions la tête. Cette position est une position de marche en avant. Regardez vers en haut, non pas vers le bas, vers la terre et ses problèmes, mais tenons-nous droit sur nos pieds afin de regarder vers le ciel d'où nous viendra le secours. Pour nous chrétiens, nous sommes appelés à nous réjouir, non pas de la souffrance du monde, pour lequel nous devons intercéder, bien entendu, mais de ce que Jésus revient bientôt. Les événements nous préparent à son retour. Quand ? Personne ne le sait, mais ayons cette espérance qu'un jour cela se terminera par l'apothéose. Jésus reviendra chercher son Église et ses enfants. Mais pour le moment, restons vigilants, demeurons fermes dans la foi et l'espérance. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit « Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté, dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne nous trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La parole nous encourage, frères et sœurs, à demeurer en paix. Malgré les temps difficiles, gardons fermement la paix de Dieu en nous, et sachons que nous avons cette espérance de vivre dans la gloire avec notre Dieu. Ce matin, recevons sans modération l'amour de Dieu qui affermira notre foi dans ce moment que nous traversons. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous enseignes, tu nous appelles à être vigilants dans ces temps troublés. Préserve-nous, Seigneur. Garde ton Église face à tous ces événements que nous traversons. aide-nous à rester fermes. Nous pensons à ceux qui sont persécutés. Seigneur, bénis-les. Bénis-nous afin que, et garde-nous afin que nous ne tombions pas dans le panneau de l'ennemi. Mais aide-nous à rester fermes face à ces événements. Seigneur, nous savons que ton retour est proche. Prépare-nous à cet événement. Tiens-nous dans la foi et l'espérance. Amen.